L'éducation sentimentale, troisième partie, chapitre 2. Madame d'Ambreuse, dans son boudoir, entre sa nièce et Miss John, écoutait parler Monsieur Rock, comptant ses fatigues militaires. Elle se mordait les lèvres, semblait souffrir.
« Oh, ce n'est rien, ça se passera. »
Et, d'un air gracieux, « Nous aurons à dîner une de vos connaissances, Monsieur Moreau. » Louise tressaillit. Puis seulement quelques intimes, Alfred de Sisy, entre autres. Et elle vanta ses manières, sa figure, et principalement ses mœurs. Madame d'Ambreuse mentait moins qu'elle ne croyait. Le vicomte rêvait le mariage. Il l'avait dit à Martineau, ajoutant qu'il était sûr de plaire à Mademoiselle Cécile et que ses parents l'accepteraient. Pour risquer une telle confidence, il devait avoir sur la dot des renseignements avantageux. Or, Martineau soupçonnait Cécile d'être la fille naturelle de Monsieur d'Ambreuse, et il eût été, probablement, très fort de demander sa main à tout hasard. Cette audace offrait des dangers. Aussi, Martineau, jusqu'à présent, s'était conduit de manière à ne pas se compromettre. D'ailleurs, il ne savait comment se débarrasser de la tante. Le mot de Sisy le détermina, et il avait fait sa requête au banquier, lequel, n'y voyant pas d'obstacle, venait d'en prévenir Madame d'Ambreuse. Sisy parut, elle se leva, dit « Vous nous oubliez, Cécile, shake hands !» Au même moment, Frédéric entrait. « Ah, enfin, on vous retrouve !» s'écria le père Rock. « J'ai été trois fois chez vous avec Louise cette semaine. » Frédéric les avait soigneusement évités. Il allégua qu'il passait tous ses jours près d'un camarade blessé. Depuis longtemps, du reste, un tas de choses l'avaient pris. Et il cherchait des histoires. Heureusement, les convives arrivèrent. D'abord M. Paul de Grémonville, le diplomate entrevu au bal. Puis Fumichon, cet industriel dont le dévouement conservateur l'avait un soir scandalisé. La vieille duchesse de Montreuil-Nantua les suivait. Mais deux voix s'élevèrent dans l'antichambre. « J'en suis certaine, » disait l'une. « chère belle dame, » répondait l'autre. « De grâce, calmez-vous. » C'était monsieur de Nonancourt, un vieux beau, l'air momifié dans du col de cuim, et madame de Larcillois, l'épouse d'un préfet de Louis-Philippe. Elle tremblait extrêmement, car elle avait entendu, tout à l'heure, sur un orgue, une polka qui était un signal entre les insurgés. Beaucoup de bourgeois avaient des imaginations pareilles. On croyait que des hommes, dans les catacombes, allaient faire sauter le faubourg Saint-Germain. Des rumeurs s'échappaient des caves, il se passait aux fenêtres des choses suspectes. Tout le monde s'évertua cependant à tranquilliser Madame de Larcillois. L'ordre était rétabli, plus rien à craindre. Cavaignac nous a sauvés. Comme si les horreurs de l'insurrection n'eussent pas été suffisamment nombreuses, on les exagérait. Il y avait eu 23 000 forçats du côté des socialistes, pas moins. On ne doutait nullement des vivres empoisonnés, des mobiles sciés entre des planches, et des inscriptions des drapeaux qui réclamaient le pillage, l'incendie. « Et quelque chose de plus !» ajouta l'ex-préfète. « Ah, cher !» dit par pudeur Madame d'Ambreuse en désignant d'un coup d'œil les trois jeunes filles. Monsieur d'Ambreuse sortit de son cabinet avec Martineau. Elle détourna la tête et répondit au salut de pèlerins qui s'avançaient. L'artiste considérait les murailles d'une façon inquiète. Le banquier le prit à part et lui fit comprendre qu'il avait dû, pour le moment, cacher sa toile révolutionnaire. « Sans doute, » dit pèlerin, « son échec au club de l'intelligence ayant modifié ses opinions. » Monsieur d'Ambreuse glissa fort poliment qu'il lui commanderait d'autres tableaux. « Mais, pardon, ah, cher ami, quel bonheur !» Arnoux et Madame Arnoux étaient devant Frédéric. Il eut comme un vertige. Rosanette, avec son admiration pour les soldats, l'avait agacé toute l'après-midi, et le vieil amour se réveilla. Le maître d'hôtel vint annoncer que madame était servie. D'un regard, elle ordonna au vicomte de prendre le bras de Cécile, dit tout bas à Martinon « Misérable !» et on passa dans la salle à manger. Sous les feuilles vertes d'un ananas, au milieu de la nappe, une dorade s'allongeait, le museau tendu vers un quartier de chevreuil et touchant de sa queue un buisson d'écrevisses. Des figues, des cerises énormes, des poires et des raisins, primeurs de la culture parisienne, montaient en pyramide dans des corbeilles de vieux saxes. Une touffe de fleurs, par intervalle, se mêlait aux claires argenteries. Les stores de soie blanche, abaissés devant les fenêtres, emplissaient l'appartement d'une lumière douce. Il était rafraîchi par deux fontaines où il y avait des morceaux de glace, et de grands domestiques en culottes courtes servaient. Tout cela semblait meilleur après l'émotion des jours passés. On rentrait dans la jouissance des choses que l'on avait eu peur de perdre. Et Nonancourt exprima le sentiment général en disant « Ah, espérons que messieurs les républicains vont nous permettre de dîner. » « Malgré leur fraternité, » ajouta spirituellement le père Roque. Ces deux honorables étaient à la droite et à la gauche de madame d'Ambreuse, ayant devant elle son mari, entre madame de Larcillois, flanquée du diplomate, et la vieille duchesse, que Fumichon coudoyait. Puis venaient le peintre, le marchand de faïence, mademoiselle Louise, et, grâce à Martinon, qui lui avait enlevé sa place pour se mettre auprès de Cécile, Frédéric se trouvait à côté de madame Arnoux. Elle portait une robe de barège noire, un cercle d'or au poignet, et, comme le premier jour où il avait dîné chez elle, quelque chose de rouge dans les cheveux, une branche de fuchsia entortillée à son chignon. Il ne put s'empêcher de lui dire « Voilà longtemps que nous ne nous sommes vus. »« Ah ?» répliqua-t-elle froidement. Il reprit, avec une douceur dans la voix qui atténuait l'impertinence de sa question. « Avez-vous quelquefois pensé à moi ?»« Pourquoi y penserais-je ? » Frédéric fut blessé par ce mot. « Vous avez peut-être raison, après tout. » Mais, se repentant vite, il jura qu'il n'avait pas vécu un seul jour sans être ravagé par son souvenir. « Je n'en crois absolument rien, monsieur. » « Cependant, vous savez que je vous aime. » Madame Arnoux ne répondit pas. « Vous savez que je vous aime. » Elle se taisait toujours. « Eh bien, va te promener !» se dit Frédéric. Et levant les yeux, il aperçut à l'autre bout de la table mademoiselle Roque. Elle avait cru coquet de s'habiller tout en vert, couleur qui jouerait grossièrement avec le ton de ses cheveux rouges. Sa boucle de ceinture était trop haute, sa collerette l'engonçait. Ce peu d'élégance avait contribué sans doute au froid à bord de Frédéric. Elle l'observait de loin, curieusement, et Arnoux, près d'elle, avait beau prodiguer les galanteries, il n'en pouvait tirer trois paroles. Si bien que, renonçant à plaire, il écouta la conversation. Elle roulait maintenant sur les purées d'ananas du Luxembourg. Louis Blanc, d'après Fumichon, possédait un hôtel rue Saint-Dominique et refusait de louer aux ouvriers. « Moi, ce que je trouve drôle, » dit Nonancourt, « c'est le Dru Rollin chassant dans les domaines de la couronne. »« Il doit 20 000 francs à un orfèvre, » ajouta Sisy. « Et même, on prétend... » Madame d'Ambreuse l'arrêta. « Ah, que c'est vilain de s'échauffer pour la politique !» « Un jeune homme, fi donc, occupez-vous plutôt de votre voisine. » Ensuite, les gens sérieux attaquèrent les journaux. Arnoux prit leur défense. Frédéric s'en mêla, les appelant des maisons de commerce pareilles aux autres. Leurs écrivains, généralement, étaient des imbéciles ou des blagueurs. Il se donna pour les connaître et combattait par des sarcasmes les sentiments généreux de son ami. Madame Arnoux ne voyait pas que c'était une vengeance contre elle. Cependant, le vicomte se torturait l'intellect afin de conquérir Mademoiselle Cécile. D'abord, il étala les goûts d'artiste en blâmant la forme des carafons et la gravure des couteaux. Puis il parla de son écurie, de son tailleur et de son chemisier. Enfin, il aborda le chapitre de la religion et trouva moyen de faire entendre qu'il accomplissait tous ses devoirs. Martinon s'y prenait mieux. D'un train monotone et en la regardant continuellement, il vantait son profil d'oiseau, sa fade chevelure blonde, ses mains trop courtes. La laide jeune fille se délectait sous cette averse de douceur. On n'en pouvait rien entendre, tous parlaient très haut. Monsieur Roch voulait pour gouverner la France un bras de fer. Nonancourt regretta même que l'échafaud politique fût aboli. On aurait dû tuer en masse tous ces gredins-là. « Ce sont même des lâches, » dit Fumichon. « Je ne vois pas de bravoure à se mettre derrière les barricades. » « À propos, parlez-nous donc de Dussardier, » dit Monsieur d'Ambreuse en se tournant vers Frédéric. Le brave commis était maintenant un héros, comme Salès, les frères Janson, la femme Péquillée, etc. Frédéric, sans se faire prier, débita l'histoire de son ami. Il lui en revint une espèce d'auréole. On arriva tout naturellement à relater différents traits de courage. Suivant le diplomate, il n'était pas difficile d'affronter la mort, témoin ceux qui se battent en duel. « On peut s'en rapporter au vicomte, » dit Martinon. Le vicomte devint très rouge. Les convives le regardaient, et Louise, plus étonnée que les autres, murmura « Qu'est-ce donc ?»« Il a calé devant Frédéric, » reprit tout bas Arnoux. « Vous savez quelque chose, mademoiselle ?» demanda aussitôt Nonancourt. Et il dit sa réponse à Madame d'Ambreuse, qui, se penchant un peu, se mit à regarder Frédéric. Martinon n'attendit pas les questions de Cécile. Il lui apprit que cette affaire concernait une personne inqualifiable. La jeune fille se recula légèrement sur sa chaise, comme pour fuir le contact de ce libertin. La conversation avait recommencé. Les grands vins de Bordeaux circulaient, on s'animait. Pèlerin en voulait à la Révolution à cause du musée espagnol, définitivement perdu. C'était ce qui l'affligeait le plus comme peintre. À ce mot, M. Roch l'interpella. « Ne seriez-vous pas l'auteur d'un tableau très remarquable ?»«
Peut-être. Lequel ?»«
Cela représente une dame dans un costume, ma foi, un peu léger, avec une bourse et un paon derrière. » Frédéric, à son tour, s'empourpra. Pèlerin faisait semblant de ne pas entendre. « Cependant, c'est bien de vous, car il y a votre nom écrit au bas, et une ligne sur le cadre constatant que c'est la propriété de M. Moreau. » Un jour que le père Roch et sa fille l'attendaient chez lui, ils avaient vu le portrait de la maréchale. Le bonhomme l'avait même pris pour un tableau gothique. « Non, » dit Pèlerin brutalement, « c'est un portrait de femme. » Martinon ajouta « D'une femme très vivante, n'est-ce pas, Sisi ?»«
Eh, je n'en sais rien. »
« Je croyais que vous la connaissiez. Mais du moment que ça vous fait de la peine, mille excuses. » Sisi baissa les yeux, prouvant par son embarras qu'il avait dû jouer un rôle pitoyable à l'occasion de ce portrait. Quant à Frédéric, le modèle ne pouvait être que sa maîtresse. Ce fut une de ses convictions qui se forment tout de suite, et les figures de l'assemblée la manifestaient clairement. « Comme il me mentait !» se dit Madame Arnoux. « C'est donc pour cela qu'il m'a quittée ?» pensa Louise. Frédéric s'imaginait que ces deux histoires pouvaient le compromettre, et quand on fut dans le jardin, il en fit des reproches à Martinon. L'amoureux de Mademoiselle Cécile lui éclata de rire au nez. « Et pas du tout, ça te servira, va de l'avant !» Que voulait-il dire? D'ailleurs, pourquoi cette bienveillance si contraire à ses habitudes ? Sans rien expliquer, il s'en alla vers le fond où les dames étaient assises. Les hommes se tenaient debout, et Pellerin, au milieu d'eux, émettait des idées. Ce qu'il y avait de plus favorable pour les arts, c'était une monarchie, bien entendu. Les temps modernes le dégoûtaient, quand ce ne serait qu'à cause de la garde nationale. Il regrettait le Moyen-Âge, Louis XIV. M. Roc le félicita de ses opinions, avouant même qu'elle renversait tous ses préjugés sur les artistes. Mais il s'éloigna presque aussitôt, attiré par la voix de Fumichon. Arnoux tâchait d'établir qu'il y a deux socialismes, un bon et un mauvais. L'industriel n'y voyait pas de différence, la tête lui tournant de colère au mot « propriété ». C'est un droit écrit dans la nature. Les enfants tiennent à leurs joujoux. Tous les peuples sont de mon avis, tous les animaux. Le lion même, s'il pouvait parler, se déclarerait propriétaire. Ainsi, moi, messieurs, j'ai commencé avec 15 000 francs de capital. Pendant 30 ans, savez-vous, je me levais régulièrement à 4 heures du matin. J'ai eu un mal des 500 diables à faire ma fortune. Et on viendra me soutenir que je n'en suis pas le maître, que mon argent n'est pas mon argent, enfin, que la propriété, c'est le vol. Mais, Proudhon, laissez-moi tranquille avec votre Proudhon. S'il était là, je crois que je l'étranglerais. Il l'aurait étranglé. Après les liqueurs, surtout, Fumichon ne se connaissait plus, et son visage apoplectique était près d'éclater comme un obus. « Bonjour, Arnoux !» dit Hussonnet qui passa lestement sur le gazon. Il apportait à M. d'Ambreuse la première feuille d'une brochure intitulée « L'hydre », le bohème défendant les intérêts d'un cercle réactionnaire, et le banquier le présenta comme tel à ses hôtes. Hussonnet les divertit, en soutenant d'abord que les marchands de Suif payaient 392 gamins pour crier chaque soir « des lampions !» Puis, en blaguant les principes de 89, l'affranchissement des nègres, les orateurs de la gauche. Il se lança même jusqu'à faire prud'homme sur une barricade, peut-être par l'effet d'une jalousie naïve contre ces bourgeois qui avaient bien dîné. La charge plut médiocrement. Leurs figures s'allongèrent. Ce n'était pas le moment de plaisanter, du reste. Nonancourt le dit, en rappelant la mort de Monseigneur Affre et celle du général de Bréa. Elles étaient toujours rappelées, on en faisait des arguments. M. Roc déclara le trépas de l'archevêque tout ce qu'il y avait de plus sublime. Fumichon donnait la palme aux militaires, et au lieu de déplorer simplement ces deux meurtres, on discuta pour savoir lequel devait exciter la plus forte indignation. Un second parallèle vint après, celui de Lamoricière et de Cavaignac, M. d'Ambreuse exaltant Cavaignac et Nonancourt Lamoricière. Personne de la compagnie, sauf Arnoux, n'avait pu les voir à l'œuvre. Tous n'en formulèrent pas moins sur leurs opérations un jugement irrévocable. Frédéric s'était récusé, confessant qu'il n'avait pas pris les armes. Le diplomate et M. d'Ambreuse lui firent un signe de tête approbatif. En effet, avoir combattu l'émeute, c'était avoir défendu la République. Le résultat, bien que favorable, la consolidait, et maintenant qu'on était débarrassé des vaincus, on souhaitait l'être des vainqueurs. À peine dans le jardin, Mme d'Ambreuse, prenant Sisy, l'avait gourmandé de sa maladresse. À la vue de Martinon, elle le congédia, puis voulut savoir de son futur neveu la cause de ses plaisanteries sur le vicomte. Il n'y en a pas. Et tout cela comme pour la gloire de M. Moreau, dans quel but ? Dans aucun. Frédéric est un charmant garçon, je l'aime beaucoup. Et moi aussi. Qu'il vienne, allez le chercher. Après 2 ou 3 phrases banales, elle commença par déprécier légèrement ses convives, ce qui était le maître au-dessus d'eux. Il ne manqua pas de dénigrer un peu les autres femmes, manière habile de lui adresser des compliments. Mais elle le quittait de temps en temps. C'était soir de réception, les dames arrivaient. Puis elle revenait à sa place, et la disposition toute fortuite des sièges leur permettait de n'être pas entendue. Elle se montra enjouée, sérieuse, mélancolique et raisonnable. Les préoccupations du jour l'intéressaient médiocrement. Il y avait tout un ordre de sentiments moins transitoires. Elle se plaignit des poètes qui dénaturent la vérité, puis elle leva les yeux vers le ciel en lui demandant le nom d'une étoile. On avait mis dans les arbres deux ou trois lanternes chinoises. Le vent les agitait, des rayons colorés tremblaient sur sa robe blanche. Elle se tenait, comme d'habitude, un peu en arrière dans son fauteuil, avec un tabouret devant elle. On apercevait la pointe d'un soulier de satin noir. Et Madame d'Ambreuse, par intervalle, lançait une parole plus haute, quelquefois même un rire. Ses coquetteries n'atteignaient pas Martinon, occupé de ses cils. Mais elles allaient frapper la petite Roque qui causait avec Madame Arnoux. C'était la seule, parmi ces femmes, dont les manières ne lui semblaient pas dédaigneuses. Elle était venue s'asseoir à côté d'elle, puis, cédant à un besoin d'épanchement, « N'est-ce pas qu'il parle bien, Frédéric Moreau ?»« Vous le connaissez ?»« Oh, beaucoup ! Nous sommes voisins. Il m'a fait jouer, toute petite !» Madame Arnoux lui jeta un long regard qui signifiait « Vous ne l'aimez pas, j'imagine ?» Celui de la jeune fille répliqua sans trouble « Si. »« Vous le voyez souvent, alors ?»« Oh non, seulement quand il vient chez sa mère. Voilà 10 mois qu'il n'est venu. Il avait promis cependant d'être plus exact. » »« Il ne faut pas trop croire aux promesses des hommes, mon enfant. » « Mais il ne m'a pas trompée, moi !»« Comme d'autres !» Louise frissonna. « Est-ce que, par hasard, il lui aurait aussi promis quelque chose à elle ?» Et sa figure était crispée de défiance et de haine. Madame Arnoux en eut presque peur. Elle aurait voulu rattraper son mot. Puis, toutes deux se turent. Comme Frédéric se trouvait en face, sur un pliant, elle le considérait. L'une avec décence, du coin des paupières, l'autre, franchement, la bouche ouverte. Si bien que Madame d'Ambreuse lui dit « Tournez-vous donc pour qu'elle vous voie !»« Qui, cela ?»« Mais la fille de Monsieur Roch !» Et elle le plaisanta sur l'amour de cette jeune provinciale. Il s'en défendait en tâchant de rire. « Est-ce croyable, je vous le demande, une laideron pareille !» Cependant, il éprouvait un plaisir de vanité immense. Il se rappelait l'autre soirée, celle dont il était sorti, le cœur plein d'humiliation. Et il respirait largement. Il se sentait dans son vrai milieu, presque dans son domaine, comme si tout cela, y compris l'hôtel d'Ambreuse, lui avait appartenu. Les dames formaient un demi-cercle en l'écoutant, et afin de briller, il se prononça pour le rétablissement du divorce, qui devait être facile jusqu'à pouvoir se quitter et se reprendre indéfiniment tant qu'on voudrait. Elles se récrièrent, d'autres chuchotaient. Il y avait de petits éclats de voix dans l'ombre, au pied du mur couvert d'aristoloches. C'était comme un caquetage de poules en gaieté. Et il développait sa théorie avec cet aplomb que la conscience du succès procure. Un domestique apporta dans la tonnelle un plateau chargé de glace, les messieurs s'en rapprochèrent, ils causaient des arrestations. Alors, Frédéric se vengea du vicomte, en lui faisant accroire qu'on allait peut-être le poursuivre comme légitimiste. L'autre objectait qu'il n'avait pas bougé de sa chambre. Son adversaire accumula les chances mauvaises. Messieurs d'Ambreuse et de Grémonville eux-mêmes s'amusaient. Puis ils complimentèrent Frédéric, tout en regrettant qu'il n'employât pas ses facultés à la défense de l'ordre. Et leur poignée de main fut cordiale. Ils pouvaient désormais compter sur eux. Enfin, comme tout le monde s'en allait, le vicomte s'inclina très bas devant Cécile. « Mademoiselle, J'ai bien l'honneur de vous souhaiter le bonsoir. »
Elle répondit d'un ton sec « Bonsoir. »
Mais elle envoya un sourire à Martinon. Le père Roque, pour continuer sa discussion avec Arnoux, lui proposa de le reconduire, ainsi que madame, leur route étant la même. Louise et Frédéric marchaient devant. Elle avait saisi son bras, et quand elle fut un peu loin des autres, « Ah, enfin, enfin, ai-je assez souffert toute la soirée? Comme ces femmes sont méchantes, quels airs de hauteur !» Il voulut les défendre. « D'abord, tu pouvais bien me parler en entrant, depuis un an que tu n'es venu. »
« Il n'y a pas un an, » dit Frédéric, heureux de la reprendre sur ce détail pour esquiver les autres.
« Soit, le temps m'a paru long, voilà tout. Mais pendant cet abominable dîner, c'est à croire que tu avais honte de moi.
Ah, je comprends. Je n'ai pas ce qu'il faut pour plaire, comme elle. »
« Tu te trompes, » dit Frédéric.
« Vraiment? Jure-moi que tu n'en aimes aucune. »
Il jura.
« Et c'est moi seule que tu aimes ?»«
Parbleu. » Cette assurance la rendit gaie. Elle aurait voulu se perdre dans les rues pour se promener ensemble toute la nuit.
« J'ai été si tourmentée là-bas. On ne parlait que de barricades. Je te voyais tombant sur le dos, couvert de sang. Ta mère était dans son lit avec ses rhumatismes. Elle ne savait rien. Il fallait me taire. Je n'y tenais plus. Alors j'ai pris Catherine. »
Et elle lui conta son départ, toute sa route et le mensonge fait à son père.
« Il me ramène dans 2 jours. Viens demain soir, comme par hasard, et profites-en pour me demander en mariage. »
Jamais Frédéric n'avait été plus loin du mariage. D'ailleurs, Mademoiselle Roque lui semblait une petite personne assez ridicule. Quelle différence avec une femme comme Madame d'Ambreuse! Un bien autre avenir lui était réservé. Il en avait la certitude aujourd'hui. Aussi, n'était-ce pas le moment de s'engager, par un coup de cœur, dans une détermination de cette importance? Il fallait maintenant être positif. Et puis, il avait revu Madame Arnoux. Cependant, la franchise de Louise l'embarrassait. Il répliqua « As-tu bien réfléchi à cette démarche ?»«
Comment ?»
s'écria-t-elle, glacée de surprise et d'indignation. « Il dit que se marier actuellement serait une folie. »«
Ainsi tu ne veux pas de moi ?»«
Mais tu ne me comprends pas. » Et il se lança dans un verbiage très embrouillé pour lui faire entendre qu'il était retenu par des considérations majeures, qu'il avait des affaires à n'en plus finir, que même sa fortune était compromise. Louise tranchait tout d'un mot net. Enfin que les circonstances politiques s'y opposaient. Donc, le plus raisonnable était de patienter quelque temps. Les choses s'arrangeraient sans doute, du moins il l'espérait. Et comme il ne trouvait plus de raison, il feignit de se rappeler brusquement qu'il aurait dû être, depuis 2 heures, chez Dussardier. Puis, ayant salué les autres, il s'enfonça dans la rue Hauteville, fit le tour du gymnase, revint sur le boulevard et monta en courant les 4 étages de Rosanette. Monsieur et Madame Arnoux quittèrent le père Roque et sa fille à l'entrée de la rue Saint-Denis. Ils s'en retournèrent sans rien dire. Lui, n'en pouvant plus d'avoir bavardé, et elle éprouvant une grande lassitude. Elle s'appuyait même sur son épaule. C'était le seul homme qui eût montré pendant la soirée des sentiments honnêtes. Elle se sentit pour lui pleine d'indulgence. Cependant, il gardait un peu de rancune contre Frédéric. « As-tu vu sa mine lorsqu'il a été question du portrait? Quand je te disais qu'il est son amant, tu ne voulais pas me croire. »
« Oh oui, j'avais tort. »
Arnoux, content de son triomphe, insista. « Je parie même qu'il nous a lâchés tout à l'heure pour aller la rejoindre. Il est maintenant chez elle, va, il passe la nuit. » Madame Arnoux avait rabattu sa capeline très bas.
« Mais tu trembles ?»«
C'est que j'ai froid, » reprit-elle. Dès que son père fut endormi, Louise entra dans la chambre de Catherine et, la secouant par l'épaule, « Lève-toi ! Vite, plus vite, et va me chercher un fiacre !» Catherine lui répondit qu'il n'y en avait plus à cette heure. « Tu vas m'y conduire toi-même, alors. »« Où donc ? Chez Frédéric. »« Pas possible ! À cause !» C'était pour lui parler. Elle ne pouvait attendre, elle voulait le voir tout de suite. « Y pensez-vous ? Se présenter comme ça dans une maison, au milieu de la nuit ? D'ailleurs, à présent, il dort. Je le réveillerai. Mais ce n'est pas convenable pour une demoiselle. Je ne suis pas une demoiselle, je suis sa femme, je l'aime. Allons, mets ton châle. » Catherine, debout au bord de son lit, réfléchissait. Elle finit par dire « Non, je ne veux pas. » « Eh bien, reste, moi j'y vais. » Louise glissa comme une couleuvre dans l'escalier. Catherine s'élança par derrière, la rejoignit sur le trottoir. Ses représentations furent inutiles, et elle la suivait, tout en achevant de nouer sa camisole. Le chemin lui parut extrêmement long. Elle se plaignait de ses vieilles jambes. « Après ça, moi, je n'ai pas ce qui vous pousse, dame !» Puis elle s'attendrissait. « Pauvre cœur, il n'y a encore que ta cato, vois-tu » Des scrupules de temps en temps la reprenaient. « Ah, vous me faites faire quelque chose de joli. Si votre père se réveillait, Seigneur Dieu, pourvu qu'un malheur n'arrive pas !» Devant le théâtre des variétés, une patrouille de gardes nationaux les arrêta. Louise dit tout de suite qu'elle allait avec sa bonne dans la rue Rinfort chercher un médecin. On les laissa passer. Au coin de la Madeleine, elles rencontrèrent une seconde patrouille, et Louise ayant donné la même explication, un des citoyens reprit « Est-ce pour une malade de 9 mois, ma petite chatte ?»« Gougibeau !» s'écria le capitaine. « Pas de polissonnerie dans les rangs. Mesdames, circulez !» Malgré l'injonction, les traits d'esprit continuèrent. « Bien du plaisir !»« Mes respects au docteur !» « Prenez garde aux loups !»« Ils aiment à rire !» remarqua tout haut Catherine. « C'est jeune !» Enfin, elles arrivèrent chez Frédéric. Louise tira la sonnette avec vigueur plusieurs fois. La porte s'entrebâilla et le concierge répondit à sa demande « Non !»«
Mais il doit être couché !»«
Je vous dis que non ! Voilà près de 3 mois qu'il ne couche pas chez lui !» Et le petit carreau de la loge retomba nettement, comme une guillotine. Elle restait dans l'obscurité, sous la voûte. Une voix furieuse leur cria « Sortez donc !» La porte se rouvrit. Elles sortirent. Louise fut obligée de s'asseoir sur une borne. Et elle pleura, la tête dans ses mains, abondamment, de tout son cœur. Le jour se levait, des charrettes passaient. Catherine la ramena en la soutenant, en la baisant, en lui disant toutes sortes de bonnes choses tirées de son expérience. Il ne fallait pas se faire tant de mal pour les amoureux. Si celui-là manquait, elle en trouverait d'autres. Chapitre 3. Quand l'enthousiasme de Rosanette pour les gardes mobiles se fut calmé, elle redevint plus charmante que jamais, et Frédéric prit l'habitude, insensiblement, de vivre chez elle. Le meilleur de la journée, c'était le matin sur leur terrasse. En caraco de batiste et pieds nus dans ses pantoufles, elle allait et venait autour de lui, nettoyer la cage de ses serins, donner de l'eau à ses poissons rouges, et jardinait avec une pelle à feu dans la caisse remplie de terre, d'où s'élevait un treillage de capucines garnissant le mur. Puis, accoudés sur leur balcon, ils regardaient ensemble les voitures, les passants, et on se chauffait au soleil, on faisait des projets pour la soirée. Ils s'absentaient pendant 2 heures, tout au plus. Ensuite, ils allaient dans un théâtre quelconque, aux avant-scènes. Et Rosanette, un gros bouquet de fleurs à la main, écoutait les instruments, tandis que Frédéric, penché à son oreille, lui contait des choses joviales ou galantes. D'autres fois, Il prenait une calèche pour les conduire au bois de Boulogne. Il se promenait tard, jusqu'au milieu de la nuit. Enfin, il s'en revenait par l'Arc de Triomphe et la Grande Avenue, en humant l'air, avec les étoiles sur leur tête. Et jusqu'au fond de la perspective, tous les becs de gaz alignés comme un double cordon de perles lumineuses. Frédéric l'attendait toujours quand il devait sortir. Elle était fort longue à disposer autour de son menton les deux rubans de sa capote. Et elle se souriait à elle-même devant son armoire à glace. Puis, passait son bras sur le sien et, le forçant à se mirer près d'elle, « Nous faisons bien comme cela, tous les deux côte à côte. Ah, pauvre amour, je te mangerai. » Il était maintenant sa chose, sa propriété. Elle en avait sur le visage un rayonnement continu, en même temps qu'elle paraissait plus langoureuse de manière, plus ronde dans ses formes. Et sans pouvoir dire de quelle façon, il la trouvait changée cependant. Un jour, elle lui apprit, comme une nouvelle très importante, que le sieur Arnoux venait de monter un magasin de blanc à une ancienne ouvrière de sa fabrique. Il y venait tous les soirs, dépensait beaucoup, pas plus tard que l'autre semaine, lui avait même donné un ameublement de palissandre. « Comment le sais-tu ? » dit Frédéric. « Oh, j'en suis sûr !» Delphine, exécutant ses ordres, avait pris des informations. Elle aimait donc bien Arnoux pour s'en occuper si fortement. Il se contenta de lui répondre « Qu'est-ce que cela te fait ?» Rosanette eut l'air surprise de cette demande. « Mais la canaille me doit de l'argent. N'est-ce pas abominable de le voir entretenir des gueuses ?» Puis, avec une expression de haine triomphante, « Au reste, elle se moque de lui joliment. Elle a trois autres particuliers. Tant mieux ! Et qu'elle le mange jusqu'au dernier liard, j'en serai contente. » Arnoux, en effet, se laissait exploiter par la Bordelaise avec l'indulgence des amours séniles. Sa fabrique ne marchait plus, l'ensemble de ses affaires était pitoyable. Si bien que, pour les remettre à flot, il pensa d'abord à établir un café chantant où l'on aurait chanté rien que des œuvres patriotiques. Le ministre lui accordant une subvention, cet établissement serait devenu tout à la fois un foyer de propagande et une source de bénéfices. La direction du pouvoir ayant changé, c'était une chose impossible. Maintenant, il rêvait une grande chapellerie militaire. Les fonds lui manquaient pour commencer. Il n'était pas plus heureux dans son intérieur domestique. Madame Arnoux se montrait moins douce pour lui, parfois même un peu rude. Marthe se rangeait toujours du côté de son père. Cela augmentait le désaccord, et la maison devenait intolérable. Souvent, il en partait dès le matin, passait sa journée à faire de longues courses pour s'étourdir, puis dînait dans un cabaret de campagne en s'abandonnant à ses réflexions. L'absence prolongée de Frédéric troublait ses habitudes. Donc, il parut, une après-midi, le supplia de venir le voir comme autrefois et en obtint la promesse. Frédéric n'osait retourner chez Madame Arnoux. Il lui semblait l'avoir trahi. Mais cette conduite était bien lâche. Les excuses manquaient. Il faudrait en finir par là. Et un soir, il se mit en marche. Comme la pluie tombait, il venait d'entrer dans le passage Jouffroy quand, sous la lumière des devantures, un gros petit homme en casquette l'aborda. Frédéric n'eut pas de peine à reconnaître Compin, cet orateur dont la motion avait causé tant de rire au club. Il s'appuyait sur le bras d'un individu affublé d'un bonnet rouge de zouave, la lèvre supérieure très longue, le teint jaune comme une orange, la mâchoire couverte d'une barbiche, et qui le contemplait avec de gros yeux lubrifiés d'admiration. Compin, sans doute, en était fier, car il dit « Je vous présente ce gaillard-là. C'est un bottier de mes amis, un patriote. Prenons-nous quelque chose ?» Frédéric, l'ayant remercié, il tonna immédiatement contre la proposition râteau, une manœuvre des aristocrates. pour en finir, il fallait recommencer. Puis, il s'informa de Reginbard et de quelques autres, aussi fameux, tels que Masselin, Sanson, Le Cornu, Maréchal et un certain Deslauriers, compromis dans l'affaire des carabines interceptées dernièrement à Troyes. Tout cela était nouveau pour Frédéric. Compin n'en savait pas davantage. Il le quitta en disant « À bientôt, n'est-ce pas, car vous en êtes. » « De quoi ?»« De la tête de veau. »« Quelle tête de veau ?»« Farceur !» reprit Compin en lui donnant une tape sur le ventre. Et les deux terroristes s'enfoncèrent dans un café. 10 minutes après, Frédéric ne songeait plus à Deslauriers. Il était sur le trottoir de la rue Paradis, devant une maison, et il regardait au second étage, derrière des rideaux, la lueur d'une lampe. Enfin, il monta l'escalier. « Arnoux y est-il ? » La femme de chambre répondit « Non, mais entrez tout de même. » Et ouvrant brusquement une porte, « Madame, c'est Monsieur Moreau !» Elle se leva plus pâle que sa collerette. Elle tremblait. « Qui me vaut l'honneur d'une visite aussi imprévue ?»« Rien, le plaisir de revoir d'anciens amis. » Et tout en s'asseyant, « Comment va ce bon Arnoux ?»« Parfaitement, il est sorti. » »« Ah, je comprends. Toujours ses vieilles habitudes du soir. Un peu de distraction. »« Pourquoi pas ? Après une journée de calcul, la tête a besoin de se reposer. » Elle vanta même son mari comme travailleur. Cet éloge irritait Frédéric. Et, désignant sur ses genoux un morceau de drap noir avec des sous-taches bleues, « Qu'est-ce que vous faites là ?»«
Une veste que j'arrange pour ma fille. »«
À propos, je ne l'aperçois pas. Où est-elle donc ?»«
Dans une pension. » reprit Madame Arnoux.
Des larmes lui vinrent aux yeux. Elle les retenait en poussant son aiguille rapidement. Il avait pris par contenance un numéro de l'illustration sur la table près d'elle.
« Ces caricatures de Cham sont très drôles, n'est-ce pas ?»«
Oui. » Puis ils retombèrent dans leur silence. Une rafale ébranla tout à coup les carreaux.
« Quel temps !» dit Frédéric.
« En effet !» C'est bien aimable d'être venu par cette horrible pluie.
Oh, moi, je m'en moque. Je ne suis pas comme ceux qu'elle empêche, sans doute, d'aller à leur rendez-vous.
Quel rendez-vous ? Demanda-t-elle naïvement.
Vous ne vous rappelez pas ?
Un frisson la saisit et elle baissa la tête. Il lui posa doucement la main sur le bras.
Je vous assure que vous m'avez fait bien souffrir.
Elle reprit avec une sorte de lamentation dans la voix.
« Mais j'avais peur pour mon enfant !»
Elle lui conta la maladie du petit Eugène et toutes les angoisses de cette journée.
« Merci, merci, je ne doute plus. Je vous aime comme toujours. »«
Mais non, ce n'est pas vrai !»«
Pourquoi ?»
Elle le regarda froidement. « Vous oubliez l'autre, celle que vous promenez aux courses !» La femme dont vous avez le portrait, votre maîtresse.
« Eh bien oui !» s'écria Frédéric. « Je ne nie rien. Je suis un misérable. Écoutez-moi. »
S'il l'avait eue, c'était par désespoir, comme on se suicide. Du reste, il l'avait rendue fort malheureuse, pour se venger sur elle de sa propre honte.
« Quel supplice ! Vous ne comprenez pas ?»
Madame Arnoux tourna son beau visage en lui tendant la main, et ils fermèrent les yeux, absorbés dans une ivresse qui était comme un bercement doux et infini. Puis ils restèrent à se contempler, face à face, l'un près de l'autre.
« Est-ce que vous pouviez croire que je ne vous aimais plus ?»
Elle répondit d'une voix basse, pleine de caresses.
« Non, en dépit de tout, je sentais au fond de mon cœur que cela était impossible, et qu'un jour l'obstacle entre nous deux s'évanouirait. Moi aussi, et j'avais des besoins de vous revoir à en mourir.
Une fois, reprit-elle, dans le palais royal, j'ai passé à côté de vous. Vraiment ? Et il lui dit le bonheur qu'il avait eu en la retrouvant chez les Dambreuses. Mais comme je vous détestais le soir en sortant de là.
Pauvre garçon,
ma vie est si triste.
Et la mienne, s'il n'y avait que les chagrins, les inquiétudes, les humiliations, tout ce que j'endure comme épouse et comme mère, puisqu'on doit mourir, je ne me plaindrais pas. Ce qu'il y a d'affreux, c'est ma solitude, sans personne.
Mais je suis là, moi.
Oh oui.
Un sanglot de tendresse l'avait soulevé. Ses bras s'écartèrent et ils s'étreignirent, debout, dans un long baiser. Un craquement se fit sur le parquet. Une femme était près d'eux. Rosanette. Madame Arnoux l'avait reconnue. Ses yeux, ouverts démesurément, l'examinaient, tout plein de surprise et d'indignation. Enfin, Rosanette lui dit « Je viens parler à Monsieur Arnoux pour affaire. »
« Il n'y est pas, vous le voyez. »«
Ah, c'est vrai, » reprit la maréchale. « Votre bonne avait raison. Mille excuses. » Et, se tournant vers Frédéric, « Te voilà ici, toi ?» Ce tutoiement, donné devant elle, fit rougir Madame Arnoux, comme un soufflet en plein visage.
« Il n'y est pas, je vous le répète. »
Alors la maréchale, qui regardait ça et là, dit tranquillement « Rentrons-nous, j'ai un fiacre en bas. » Il faisait semblant de ne pas entendre.
« Allons, viens !»«
Ah oui, c'est une occasion. Partez, partez !» dit Madame Arnoux. Ils sortirent. Elle se pencha sur la rampe pour les voir encore, et un rire aigu, déchirant, tomba sur eux du haut de l'escalier. Frédéric poussa Rosanette dans le fiacre, se mit en face d'elle, et pendant toute la route ne prononça pas un mot. L'infamie dont le rejaillissement l'outrageait, c'était lui-même qui en était cause. Il éprouvait tout à la fois la honte d'une humiliation écrasante et le regret de sa félicité. Quand il allait enfin la saisir, elle était devenue irrévocablement impossible. Et par la faute de celle-là, de cette fille, de cette catin, il aurait voulu l'étrangler. Il étouffait. Rentré chez eux, il jeta son chapeau sur un meuble, arracha sa cravate.
« Ah ! Tu viens de faire quelque chose de propre, avoue-le. »
Elle se campa fièrement devant lui.
« Eh bien, après, où est le mal ?»«
Comment ? Tu m'espionnes ?
Est-ce ma faute ? Pourquoi vas-tu te divertir chez les femmes honnêtes ?»«
N'importe. Je ne veux pas que tu les insultes. »
En quoi l'ai-je insulté ?
Il n'eut rien à répondre, et d'un accent plus haineux.
Mais l'autre fois, au Champ de Mars.
Ah, tu nous ennuies avec tes anciennes.
Misérable !
Il leva le poing.
Ne me tue pas ! Je suis enceinte.
Frédéric se recula.
Tu mens !
Mais regarde-moi ! Elle prit un flambeau, et montrant son visage.
« T'y connais-tu ?»
De petites taches jaunes maculaient sa peau, qui était singulièrement bouffie. Frédéric ne nia pas l'évidence. Il alla ouvrir la fenêtre, fit quelques pas de long en large, puis s'affaissa dans un fauteuil. Cet événement était une calamité, qui d'abord ajournait leur rupture, et puis bouleversait tous ses projets. L'idée d'être père, d'ailleurs, lui paraissait grotesque, inadmissible.
Mais pourquoi ? Si, au lieu de la maréchale...
Et sa rêverie devint tellement profonde qu'il eut une sorte d'hallucination. Il voyait là, sur le tapis, devant la cheminée, une petite fille. Elle ressemblait à Madame Arnoux, et à lui-même, un peu. Brune et blanche, avec des yeux noirs, de très grands sourcils, un ruban rose dans ses cheveux bouclants. Oh, comme il l'aurait aimé! Il lui semblait entendre sa voix. « Papa! Papa !» Rosanette, qui venait de se déshabiller, s'approcha de lui, aperçut une larme à ses paupières et le baisa sur le front, gravement. Il se leva en disant « Parbleu, on ne le tuera pas, ce marmot. » Alors elle bavarda beaucoup. Ce serait un garçon, bien sûr. On l'appellerait Frédéric. Il fallait commencer son trousseau. Et en la voyant si heureuse, une pitié le prit. Comme il ne ressentait maintenant aucune colère, il voulut savoir la raison de sa démarche tout à l'heure. C'est que Mademoiselle Bathenaz lui avait envoyé, ce jour-là même, un billet protesté depuis longtemps, et elle avait couru chez Arnoux pour avoir de l'argent.
« Je t'en aurais donné, » dit Frédéric.
« C'était plus simple de prendre là-bas ce qui m'appartient et de rendre à l'autre 6 000 francs.
« Est-ce au moins tout ce que tu lui dois ?»
Elle répondit « Certainement !» Le lendemain, à 9 heures du soir, heure indiquée par le portier, Frédéric se rendit chez Mademoiselle Bathenaz. Il se cogna dans l'antichambre contre les meubles entassés, mais un bruit de voix et de musique le guidait. Il ouvrit une porte et tomba au milieu d'un raout. Debout, devant le piano que touchait une demoiselle en lunettes, Delmar, sérieux comme un pontife, déclamait une poésie humanitaire sur la prostitution, et sa voix caverneuse roulait, soutenue par les accords plaqués. Un rang de femmes occupait la muraille, vêtues généralement de couleurs sombres, sans col de chemise ni manchette. 5 ou 6 hommes, tous des penseurs, étaient çà et là sur des chaises. Il y avait dans un fauteuil un ancien fabuliste, une ruine, et l'odeur âcre de 2 lampes se mêlait à l'arôme du chocolat qui emplissait des bols encombrant la table à jeu. Mademoiselle Bathenaz, une écharpe orientale autour des reins, se tenait à un coin de la cheminée. Dussardier était à l'autre bout, en face. Il avait l'air un peu embarrassé de sa position. D'ailleurs, ce milieu artistique l'intimidait. La Bathenaz en avait-elle fini avec Delmar? Non, peut-être. Cependant, elle semblait jalouse du brave commis. Et Frédéric ayant réclamé d'elle un mot d'entretien, elle lui fit signe de passer avec eux dans sa chambre. Quand les 1 000 francs furent alignés, elle demanda, en plus, les intérêts.
« Ça n'en vaut pas la peine, » dit Dussardier.
« Tais-toi donc !» Cette lâcheté d'un homme si courageux fut agréable à Frédéric, comme une justification de la sienne. Il rapporta le billet et ne reparla jamais de l'esclandre chez Madame Arnoux. Mais dès lors, toutes les défectuosités de la maréchale lui apparurent. Elle avait un mauvais goût irrémédiable, une incompréhensible paresse, une ignorance de sauvage, jusqu'à considérer comme très célèbre le docteur Desrogis. Et elle était fière de le recevoir, lui et son épouse, parce que c'étaient des gens mariés. Elle régentait d'un air pédantesque sur les choses de la vie. Mademoiselle Irma, pauvre petite créature douée d'une petite voix, ayant pour protecteur un monsieur très bien, ex-employé dans les douanes et fort autour de cartes. Rosanette l'appelait « mon gros loulou ». Frédéric ne pouvait souffrir non plus la répétition de ces mots bêtes tels que « du flan »,« à chaillot », »,« on n'a jamais pu savoir », etc. Et elle s'obstinait à épousseter le matin ses bibelots avec une paire de vieux gants blancs. Il était révolté surtout par ses façons envers sa bonne, dont les gages étaient sans cesse arriérés et qui même lui prêtaient de l'argent. Les jours qu'elle réglait leurs comptes, elle se chamaillait comme deux poissardes, puis on se réconciliait en s'embrassant. Le tête-à-tête devenait triste. Ce fut un soulagement pour lui quand les soirées de Madame d'Ambreuse recommencèrent. Celle-là, au moins, l'amusait. Elle savait les intrigues du monde, les mutations d'ambassadeurs, le personnel des couturières. Et s'il lui échappait des lieux communs, c'était dans une formule tellement convenue que sa phrase pouvait passer pour une déférence ou pour une ironie. Il fallait la voir au milieu de 20 personnes qui causaient, n'en oubliant aucune, amenant les réponses qu'elle voulait évitant les périlleuses. Des choses très simples, racontées par elle, semblaient des confidences. Le moindre de ses sourires faisait rêver. Son charme, enfin, comme l'exquise odeur qu'elle portait ordinairement, était complexe et indéfinissable. Frédéric, dans sa compagnie, éprouvait chaque fois le plaisir d'une découverte. Et cependant, il la retrouvait toujours avec sa même sérénité, pareille au miroitement des eaux limpides. Mais pourquoi ses manières envers sa nièce avaient-elles tant de froideur? Elle lui lançait même par moments de singuliers coups d'œil. Dès qu'il fut question de mariage, elle avait objecté à M. d'Ambreuse la santé de la chère enfant et l'avait emmenée tout de suite au bain de Balaruc. À son retour, des prétextes nouveaux avaient surgi. Le jeune homme manquait de position, ce grand amour ne paraissait pas sérieux, on ne risquait rien d'attendre. Martinon avait répondu qu'il attendrait. Sa conduite fut sublime. Il prôna Frédéric, il fit plus. Il le renseigna sur les moyens de plaire à Madame d'Ambreuse, laissant même entrevoir qu'il connaissait, par la nièce, les sentiments de la tante. Quant à Monsieur d'Ambreuse, loin de montrer de la jalousie, il entourait d'égards son jeune ami, le consultait sur différentes choses, s'inquiétait même de son avenir, si bien qu'un jour, comme on parlait du père Roch, il lui dit à l'oreille d'un air finaud « Vous avez bien fait !» Et Cécile, Miss John, les domestiques, le portier, pas un qui ne fût charmant pour lui dans cette maison. Il y venait tous les soirs, abandonnant Rosanette. Sa maternité future la rendait plus sérieuse, même un peu triste, comme si des inquiétudes l'eussent tourmentée. À toutes les questions, elle répondait « Tu te trompes, je me porte bien. » C'était 5 billets qu'elle avait souscrit autrefois, et n'osant le dire à Frédéric après le paiement du premier, elle était retournée chez Arnoux, lequel lui avait promis, par écrit, le tiers de ses bénéfices dans l'éclairage au gaz des villes du Languedoc, une entreprise merveilleuse, en lui recommandant de ne pas se servir de cette lettre avant l'assemblée des actionnaires. L'assemblée était remise de semaine en semaine. Cependant, la maréchale avait besoin d'argent. Elle serait morte plutôt que d'en demander à Frédéric. Elle n'en voulait pas de lui. Cela aurait gâté leur amour. Il subvenait bien aux frais du ménage, mais une petite voiture louée au mois et d'autres sacrifices indispensables depuis qu'il fréquentait les D'Ambreuse l'empêchaient d'en faire plus pour sa maîtresse. 2 ou 3 fois, en rentrant à des heures inaccoutumées, il crut voir des dos masculins disparaître entre les portes, et elle sortait souvent sans vouloir dire où elle allait. Frédéric n'essaya pas de creuser les choses. Un de ces jours, il prendrait un parti définitif. Il rêvait une autre vie, qui serait plus amusante et plus noble. Un pareil idéal le rendait indulgent pour l'hôtel d'Ambreuse. C'était une succursale intime de la rue de Poitiers. Il y rencontra le grand monsieur A, l'illustre B, le profond C, l'éloquent Z, l'immense Y, les vieux ténors du centre gauche, les paladins de la droite, les burgraves du juste milieu, les éternels bonshommes de la comédie. Il fut stupéfait par leur exécrable langage, leur petitesse, leur rancune, leur mauvaise foi. Tous ces gens qui avaient voté la Constitution s'évertuant à la démolir. Et ils s'agitaient beaucoup, lançaient des manifestes, des pamphlets, des biographies. Celle de Fumichon par Hussonnet fut un chef-d'œuvre. Nonancourt s'occupait de la propagande dans les campagnes. Monsieur de Grémonville travaillait le clergé. Martinon ralliait de jeunes bourgeois. Chacun, selon ses moyens, s'employa, jusqu'à Sisy lui-même. Pensant maintenant aux choses sérieuses, tout le long de la journée, il faisait des courses en cabriolet, pour le parti. Monsieur d'Ambreuse, tel qu'un baromètre, en exprimait constamment la dernière variation. On ne parlait pas de Lamartine sans qu'il citât ce mot d'un homme du peuple « assez de lire ». Cavaignac n'était plus à ses yeux qu'un traître. Le président, qu'il avait admiré pendant 3 mois, commençait à déchoir dans son estime, ne lui trouvant pas l'énergie nécessaire. Et comme il lui fallait toujours un sauveur, sa reconnaissance depuis l'affaire du conservatoire appartenait à Changarnier.
Dieu merci, Changarnier. Espérons que Changarnier...
Oh, rien à craindre tant que Changarnier... On exaltait avant tout M. Thiers pour son volume contre le socialisme où il s'était montré aussi penseur qu'écrivain. On riait énormément de Pierre Leroux, qui citait à la Chambre des passages des philosophes. On faisait des plaisanteries sur la queue phalanstérienne. On allait applaudir la foire aux idées, et on comparait les auteurs à Aristophane. Frédéric y alla, comme les autres. Le verbiage politique et la bonne chère engourdissaient sa moralité. Si médiocre que lui parussent ces personnages, il était fier de les connaître, et intérieurement souhaitait la considération bourgeoise. Une maîtresse comme Madame d'Ambreuse le poserait. Il se mit à faire tout ce qu'il faut. Il se trouvait sur son passage à la promenade, ne manquait pas d'aller la saluer dans sa loge au théâtre, et sachant les heures où elle se rendait à l'église, il se campait derrière un pilier dans une pose mélancolique. Pour des indications de curiosité, des renseignements sur un concert, des emprunts de livres ou de revues, c'était un échange continuel de petits billets. Outre sa visite du soir, il lui en faisait quelquefois une autre vers la fin du jour, et il avait une gradation de joie à passer successivement par la grande porte, par la cour, par l'antichambre, par les deux salons. Enfin, il arrivait dans son boudoir, discret comme un tombeau, tiède comme une alcôve, où l'on se heurtait au capiton des meubles parmi toutes sortes d'objets çà et là, chiffonnières, écrans, coupes et plateaux en laque, en écaille, en ivoire, en malachite, bagatelles dispendieuses, souvent renouvelées. Il y en avait de simples, 3 galets d'étretat pour servir de presse-papier, un bonnet de frisonne suspendu à un paravent chinois. Toutes ces choses s'harmonisaient cependant. On était même saisi par la noblesse de l'ensemble. Ce qui tenait peut-être à la hauteur du plafond, à l'opulence des portières et aux longues crépines de soie flottant sur les bâtons dorés des tabourets. Elle était presque toujours sur une petite causeuse près de la jardinière, garnissant l'embrasure de la fenêtre. Assis au bord d'un gros pouf à roulettes, il lui adressait les compliments les plus justes possibles, et elle le regardait, la tête un peu de côté, la bouche souriante. Il lui lisait des pages de poésie en y mettant toute son âme afin de l'émouvoir et pour se faire admirer. Elle l'arrêtait par une remarque dénigrante ou une observation pratique, et leur causerie retombait sans cesse dans l'éternelle question de l'amour. Il se demandait ce qui l'occasionnait, si les femmes le sentaient mieux que les hommes, quelles étaient là-dessus leurs différences. Frédéric tâchait d'émettre son opinion en évitant à la fois la grossièreté et la fadeur. Cela devenait une espèce de lutte, agréable par moments, fastidieuse en d'autres. Il n'éprouvait pas à ses côtés ce ravissement de tout son être qui l'emportait chez Madame Arnoux, ni le désordre gai où l'avait mis d'abord Rosanette. Mais il la convoitait comme une chose anormale et difficile, parce qu'elle était noble, parce qu'elle était riche, parce qu'elle était dévote, se figurant qu'elle avait des délicatesses de sentiment, rares comme ses dentelles, avec des amulettes sur la peau et des pudeurs dans la dépravation. Il se servit du vieil amour. Il lui conta, comme inspiré par elle, tout ce que Madame Arnoux autrefois lui avait fait ressentir, ses langueurs, ses appréhensions, ses rêves. Elle recevait cela comme une personne accoutumée à ces choses. Sans le repousser formellement, ne cédait rien. Et il n'arrivait pas plus à la séduire que Martinon à se marier. Pour en finir avec l'amoureux de sa nièce, elle l'accusa de viser à l'argent et pria même son mari d'en faire l'épreuve. Monsieur d'Ambreuse déclara donc au jeune homme que Cécile, étant l'orpheline de parents pauvres, n'avait aucune espérance ni dot. Martinon, ne croyant pas que cela fût vrai, ou trop avancé pour se dédire, ou par un de ces entêtements d'idiots qui sont des actes de génie, répondit que son patrimoine, 15 000 livres de rente, leur suffirait. Ce désintéressement imprévu toucha le banquier. Il lui promit un cautionnement de receveur en s'engageant à obtenir la place. Et au mois de mai 1850, Martinon épousa Mademoiselle Cécile. Il n'y eut pas de bal. Les jeunes gens partirent le soir même pour l'Italie. Frédéric, le lendemain, vint faire une visite à Madame d'Ambreuse. Elle lui parut plus pâle que d'habitude. Elle le contredit avec aigreur sur 2 ou 3 sujets sans importance. Du reste, tous les hommes étaient des égoïstes. Il y en avait pourtant de dévoués, quand ce ne serait que lui. Ah, bah, comme les autres. Ses paupières étaient rouges, elle pleurait. Puis, en s'efforçant de sourire, « Excusez-moi, j'ai tort, c'est une idée triste qui m'est venue. » Il n'y comprenait rien. « N'importe, elle est moins forte que je ne croyais, » pensa-t-il. Elle sonna pour avoir un verre d'eau, en but une gorgée, le renvoya, puis se plaignit de ce qu'on la servait horriblement. Afin de l'amuser, il s'offrit comme domestique, se prétendant capable de donner des assiettes, d'épousseter les meubles, d'annoncer le monde, d'être enfin un valet de chambre, ou plutôt un chasseur, bien que la mode en fût passée. Il aurait voulu se tenir derrière sa voiture avec un chapeau de plume de coq. « Et comme je vous suivrais à pied majestueusement, en portant sur le bras un petit chien !»« Vous êtes gai !» dit Madame d'Ambreuse. « N'était-ce pas une folie, reprit-il, de considérer tout sérieusement ? Il y avait bien assez de misère sans s'en forger. Rien ne méritait la peine d'une douleur. » Madame d'Ambreuse leva les sourcils d'une manière de vague approbation. Cette parité de sentiments poussa Frédéric à plus de hardiesse. Ses mécomptes d'autrefois lui faisaient maintenant une clairvoyance. Il poursuivit. « Nos grands-pères vivaient mieux. Pourquoi ne pas obéir à l'impulsion qui nous pousse ? L'amour, après tout, n'était pas en soi une chose si importante. » « Mais c'est immoral, ce que vous dites là !» Elle s'était remise sur la causeuse. Il s'assit au bord, contre ses pieds. « Ne voyez-vous pas que je mens ? Car pour plaire aux femmes, il faut étaler une insouciance de bouffon ou des fureurs de tragédie. Elles se moquent de nous quand on leur dit qu'on les aime, simplement. Moi, je trouve ces hyperboles où elles s'amusent une profanation de l'amour vrai. » Si bien qu'on ne sait plus comment l'exprimer, surtout devant celles qui ont beaucoup d'esprit. » Elle le considérait, les cils entreclos. Il baissait la voix en se penchant vers son visage. « Oui, vous me faites peur. Je vous offense peut-être. Pardon, je ne voulais pas dire tout cela. Ce n'est pas ma faute, vous êtes si belle. » Madame d'Ambreuse ferma les yeux. Et il fut surpris par la facilité de sa victoire. Les grands arbres du jardin qui frissonnaient mollement s'arrêtèrent. Des nuages immobiles rayaient le ciel de longues bandes rouges, et il y eut comme une suspension universelle des choses. Alors, des soirs semblables, avec des silences pareils, revinrent dans son esprit, confusément. Où était-ce ? Il se mit à genoux, prit sa main, et lui jura un amour éternel. Puis, comme il partait, elle le rappela d'un signe et lui dit tout bas « Revenez dîner, nous serons seuls. » Il semblait à Frédéric, en descendant l'escalier, qu'il qu'il était devenu un autre homme, que la température embaumante des serres chaudes l'entourait, qu'il entrait définitivement dans le monde supérieur des adultères patriciens et des hautes intrigues. Pour y tenir la première place, il suffisait d'une femme comme celle-là. Avide, sans doute, de pouvoir et d'action, et mariée à un homme médiocre qu'elle avait prodigieusement servi, elle désirait quelqu'un de fort pour le conduire. Rien d'impossible maintenant. Il se sentait capable de faire 200 lieues à cheval, de travailler pendant plusieurs nuits de suite sans fatigue. Son cœur débordait d'orgueil. Sur le trottoir, devant lui, un homme couvert d'un vieux paletot marchait la tête basse et avec un tel air d'accablement que Frédéric se retourna pour le voir. L'autre releva sa figure, c'était Des Lauriers. Il hésitait. Frédéric lui sauta au cou. « Ah, mon pauvre vieux, comment, c'est toi ?» Et il l'entraîna vers sa maison en lui faisant beaucoup de questions à la fois. L'ex-commissaire de Ledru Rollin conta d'abord les tourments qu'il avait eus. Comme il prêchait la fraternité aux conservateurs et le respect des lois aux socialistes, les uns lui avaient tiré des coups de fusil, les autres apportaient une corde pour le pendre. Après juin, on l'avait destitué brutalement. Il s'était jeté dans un complot, celui des armes saisies à Troyes. On l'avait relâché, faute de preuves. Puis, le comité d'action l'avait envoyé à Londres, où il s'était flanqué des gifles avec ses frères, au milieu d'un banquet. De retour à Paris, « Et pourquoi n'es-tu pas venu chez moi ?»« Tu étais toujours absent. Ton Suisse avait des allures mystérieuses. Je ne savais que penser. Et puis, je ne voulais pas reparaître en vaincu. » Il avait frappé aux portes de la démocratie, s'offrant à la servir de sa plume, de sa parole, de ses démarches. Partout on l'avait repoussé. On se méfiait de lui. Et il avait vendu sa montre, sa bibliothèque, son linge. Mieux vaudrait crever sur les pontons de Belle-Île avec Sénécal. Frédéric, qui arrangeait alors sa cravate, n'eut pas l'air très ému par cette nouvelle. « Ah, il est déporté, ce bon Sénécal ?» Des Lauriers répliqua en parcourant les murailles d'un air envieux. « Tout le monde n'a pas ta chance. » « Excuse-moi, » dit Frédéric, sans remarquer l'allusion, « mais je dîne en ville. On va te faire à manger. Commande ce que tu voudras. Prends même mon lit. » Devant une cordialité si complète, l'amertume de Des Lauriers disparut. « Ton lit? Mais ça te gênerait. Eh non, j'en ai d'autres. »« Ah, très bien, » reprit l'avocat en riant. « Où dînes-tu donc ?»« Chez Madame Dambreuse. » « Est-ce que, par hasard, ce serait... »« Tu es trop curieux, » dit Frédéric avec un sourire qui confirmait cette supposition. Puis, ayant regardé la pendule, il se rassit. « C'est comme ça. Il ne faut pas désespérer, vieux défenseur du peuple. »« Miséricorde ! Que d'autres s'en mêlent !» L'avocat détestait les ouvriers pour en avoir souffert dans sa province, un pays de houille. Chaque puits d'extraction avait nommé un gouvernement provisoire, lui intimant des ordres. D'ailleurs, leur conduite a été charmante partout à Lyon, à Lille, au Havre, à Paris, car, à l'exemple des fabricants qui voudraient exclure les produits de l'étranger, ces messieurs réclament pour qu'on bannisse les travailleurs anglais, allemands, belges et savoyards. Quant à leur intelligence, à quoi a servi, sous la Restauration, leur fameux compagnonnage? En 1830, ils sont entrés dans la garde nationale sans même avoir le bon sens de la dominer. Est-ce que, dès le lendemain de 48, les corps de métier n'ont pas reparu avec des étendards à eux? Ils demandaient même des représentants du peuple à eux, lesquels n'auraient parlé que pour eux. Tout comme les députés de la betterave ne s'inquiètent que de la betterave. Ah, oh, j'en ai assez de ces cocos-là, se prosternant tour à tour devant l'échafaud de Robespierre, les bottes de l'empereur, le parapluie de Louis-Philippe. racaille éternellement dévouée à qui lui jette du pain dans la gueule. On crie toujours contre la vénalité de Talleyrand et de Mirabeau. Mais le commissionnaire d'en bas vendrait la patrie pour 50 centimes si on lui promettait de tarifier sa course à 3 francs. Ah, quelle faute ! Nous aurions dû mettre le feu aux 4 coins de l'Europe. Frédéric lui répondit « L'étincelle manquait. Vous étiez simplement de petits bourgeois, et les meilleurs d'entre vous, des cuistres. Quant aux ouvriers, ils peuvent se plaindre, car si l'on accepte 1 million soustrait à la liste civile et que vous leur avez octroyé avec la plus basse flagornerie, vous n'avez rien fait pour eux que des phrases. Le livret demeure aux mains du patron, et le salarié, même devant la justice, reste l'inférieur de son maître, puisque sa parole n'est pas crue. Enfin, la République me paraît vieille. Qui sait ? Le progrès peut-être n'est réalisable que par une aristocratie ou par un homme. L'initiative vient toujours d'en haut. Le peuple est mineur, quoi qu'on prétende. » « C'est peut-être vrai, » dit Deslauriers. Selon Frédéric, la grande masse des citoyens n'aspirait qu'au repos. Il avait profité à l'hôtel d'Ambreuse, et toutes les chances étaient pour les conservateurs. Ce parti-là, cependant, manquait d'hommes neufs. « Si tu te présentais, je suis sûr... » Il n'acheva pas. Deslauriers comprit, se passa les 2 mains sur le front, puis, tout à coup, « Mais toi, rien ne t'empêche. Pourquoi ne serais-tu pas député ?» Par suite d'une double élection, il y avait, dans l'Aube, une candidature vacante. M. d'Ambreuse, réélu à la législative, appartenait à un autre arrondissement. « Veux-tu que je m'en occupe ?» Il connaissait beaucoup de cabaretiers, d'instituteurs, de médecins, de clercs d'études et leurs patrons. D'ailleurs, on fait à croire aux paysans tout ce qu'on veut. Frédéric sentait se rallumer son ambition. Deslauriers ajouta « Tu devrais bien me trouver une place à Paris. »« Oh, ce ne sera pas difficile, par monsieur d'Ambreuse. »« Puisque nous parlions de houille, » reprit l'avocat, « que devient sa grande société ? C'est une occupation de ce genre qu'il me faudrait, et je leur serai utile. » tout en gardant mon indépendance. Frédéric promit de le conduire chez le banquier avant 3 jours. Son repas en tête-à-tête avec Madame d'Ambreuse fut une chose exquise. Elle souriait en face de lui, de l'autre côté de la table, par-dessus des fleurs dans une corbeille, à la lumière de la lampe suspendue. Et comme la fenêtre était ouverte, on apercevait des étoiles. Ils causèrent fort peu, se méfiant d'eux-mêmes, sans doute. Mais dès que les domestiques tournaient le dos, il s'envoyait un baiser du bout des lèvres. Il dit son idée de candidature. Elle l'approuva, s'engageant même à y faire travailler M. d'Ambreuse. Le soir, quelques amis se présentèrent pour la féliciter et pour la plaindre. Elle devait être si chagrine de n'avoir plus sa nièce. C'était fort bien, d'ailleurs, aux jeunes mariés de s'être mis en voyage. Plus tard, les embarras, les enfants surviennent. Mais l'Italie ne répondait pas à l'idée qu'on s'en faisait. Après cela, ils étaient dans l'âge des illusions. Et puis la lune de miel embellissait tout. Les 2 derniers qui restèrent furent Monsieur de Grémonville et Frédéric. Le diplomate ne voulait pas s'en aller. Enfin, à minuit, il se leva. Madame d'Ambreuse fit signe à Frédéric de partir avec lui et le remercia de cette obéissance par une pression de main plus suave que tout le reste. La maréchale poussa un cri de joie en le revoyant. Elle l'attendait depuis 5 heures. Il donna pour excuse une démarche indispensable dans l'intérêt de Deslauriers. Sa figure avait un air de triomphe, une auréole, dont Rosanette fut éblouie. « C'est peut-être à cause de ton habit noir qui te va bien. Mais je ne t'ai jamais trouvé si beau. Comme tu es beau !» Dans un transport de sa tendresse, elle se jura intérieurement de ne plus appartenir à d'autres, quoi qu'il advint, quand elle devrait crever de misère. Ses jolis yeux humides pétillaient d'une passion tellement puissante que Frédéric l'attira sur ses genoux et il se dit « Quelle canaille je fais !» en s'applaudissant de sa perversité.